je voudrais partir de ce qui est, à mon sens, disons, le grand mérite de l'ouvrage, après les présentations qui viennent d'en être faites. Il me semble que, disons, l'intérêt magistral de cet ouvrage, c'est que la question de la civilité y est abordée, disons, en contrepoint avec la question de la politesse, hein, avec une insistance qui me paraît tout à fait bienvenue sur le caractère aristocratique, d'une part, et particulariste, de l'autre, de la politesse, opposée à des enjeux plus universalistes relatifs à la civilité. Alors, ce qui me paraît tout à fait passionnant dans l'ouvrage, c'est que les enjeux philosophiques, moraux et politiques sont particulièrement apparents. Je pense notamment au rapport politesse-sincérité. Hein. Bien sûr, Rousseau fait ici figure en quelque sorte de repoussoir, hein, puisque le pathos de l'authenticité vient déstructurer la défense de la politesse, mais aussi politesse-domination, puisque ce que rappelle tout à fait justement Philippe Reynaud, c'est que la politesse joue avec les rapports de domination. Hein, en un sens, elle avalise ces rapports, en un autre sens, elle les dissimule, toute la question étant de savoir si cette dissimulation des rapports de domination contribue ou non à les conforter. Alors, je trouve aussi très judicieux, comme vient de le rappeler Philippe Reynaud, la façon dont est rejouée ce que j'appellerais la guerre de 100 ans, entre la France et l'Angleterre, c'est-à-dire qu'on a là en un sens deux modèles de société civile, deux figures de proue de la civilisation, et en un sens d'un côté l'Angleterre libre, de l'autre la France sociable, hein, qui sont opposées l'une à l'autre. Donc la question de la civilisation, j'y reviendrai, hein, me semble fondamentale ici, hein, la question n'a rien de mineur. Il ne s'agit pas de se cantonner, pourrait-on dire, à une théorie des bonnes manières, de la bienséance, de l'étiquette, de l'urbanité, quelle que soit la façon dont on la caractérise. Il me semble que ce que montre parfaitement Philippe Reynaud, c'est qu'à travers la question de la civilité et de la sociabilité, ce qui se joue, c'est la manière dont les Français se perçoivent eux-mêmes et relisent leur histoire, c'est-à-dire en un sens perçoivent leur esprit national, hein, ou leur génie, en Europe et plus largement en Occident. Ce qui m'a donc particulièrement intéressée dans l'ouvrage, c'est une image, disons, très nuancée des Lumières, qui ne sont pas conçues selon un paradigme unifié ou artificiellement homogène. Il me semble particulièrement intéressant que toute la logique des controverses soit respectée, et l'un des exemples qu'on pourrait en donner, c'est la façon dont Philippe Reynaud distingue la monarchie civilisée et la monarchie civilisatrice, autour de la question de la civilisation de la Russie. C'est une question paradigmatique. Faut-il civiliser le peuple russe et surtout comment le faire, de manière volontariste ou non? Et sur ce point, on a des analyses très fines sur la différence entre Voltaire, Montesquieu et Rousseau. J'ai évidemment énormément apprécié aussi, sur Montesquieu, l'intérêt donné à la distinction entre le paradigme anglais du commerce et le paradigme français des manières. Alors je voudrais quand même, pour entretenir le débat, revenir pour la discussion sur trois questions qui me paraissent fondamentales, hein, et je porterai peut-être parfois un peu la contradiction. Donc premièrement, je voudrais aborder la méthode adoptée en histoire des idées. Deuxièmement, je voudrais aborder la question de l'Europe et des caractères nationaux, la façon dont Philippe Reynaud les aborde. Et enfin, j'aborderai le statut de la rupture ou de la non-rupture révolutionnaire, autrement dit, le sens de l'avènement de la démocratie. Alors, premièrement, sur la conception de l'histoire des idées. Alors, le choix qui a été assumé par Philippe Reynaud de s'en tenir au grand texte des Lumières, en procédant par une série de monographies, a bien des avantages. La qualité des argumentaires explorés, la possibilité de faire dialoguer les grands auteurs. Et il me semble que, comme je le disais, l'un des très grands mérites de l'ouvrage, c'est justement ce dialogue, constamment noué entre les auteurs, notamment, par exemple, comme vous le rappeliez à l'instant, entre Kant et Rousseau. Et j'ai particulièrement apprécié, effectivement, la sensibilité à l'évolution de Kant, qui fait état d'abord du Diogène subtil et qui finit par, une posture d'opposition à Rousseau, en défendant la sociabilité comme propédeutique à l'humanité. Alors, néanmoins, il me semble que la question de l'histoire intellectuelle risque ainsi d'être conçue dans une forme de stratosphère philosophique. Alors, là, je vais poser la question de la façon suivante. Pourquoi, finalement, ne pas faire davantage de part à l'histoire, d'une part, et à l'histoire culturelle, en général, dès lors qu'il s'agit d'analyser la civilité ou la politesse comme des pratiques, hein. Et donc, on pourrait inviter, disons, à s'adosser peut-être à la lecture d'excellents travaux d'historiens, et je pense notamment à Antoine Lilti, hein, qui a proposé un magnifique travail sur le monde des salons. Alors, à quoi cela nous servirait-il ? Ben, par exemple, à mieux comprendre le rapport qu'entretiennent les philosophes avec certains manuels de civilité. Comme, j'en donne un exemple, hein, l'essai sur la nécessité de l'art de plaire de Paradis de Moncrieff, hein, qui est vraiment un archétype du genre, qui est paru en 1738, qui est un vademécum des normes mondaines, qui a connu très nombreuses éditions, qui a fait l'admiration de Voltaire, etc. De la même façon, on pourrait comprendre la partition entre la civilité dite chrétienne et celle qui ne l'est pas. Et il me semble qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt à revisiter, hein, toutes les controverses qu'il y a eu entre ben voilà, des gens comme Morvan de Bellegarde d'un côté et Morellet du côté des philosophes de l'autre. Alors je ne défends pas les minoresses en général, hein. D'ailleurs je me suis moi-même beaucoup attelée à la question des majoresses, mais je trouve que sur la civilité, il pourrait être intéressant, disons aussi, voilà, de faire droit à ces voix. Alors enfin, il me semble que l'histoire culturelle nous éclaire, et ça me semble peut-être plus important, sur les enjeux mémoriels de la question qui est ici abordée. Alors je donnerai juste un seul exemple. Le tableau, hein, qui est reproduit ici sur la page de couverture, hein, que vous n'avez d'ailleurs peut-être pas choisi, hein, comme le montre Antoine Lilti dans son ouvrage, il s'agit typiquement, hein, donc ce tableau, d'une reconstruction a posteriori. Hein. C'est-à-dire que le tableau d'Anicet Le Monnier, qui est intitulé « Une lecture chez Madame Geoffrin », et qui figure d'Alembert lisant une pièce de Voltaire, hein, l'orphelin de la Chine, devant tout ce que le XVIIIe siècle connaît de célébrités mondaines, politiques, philosophiques, etc. Ce tableau donc a été commandé en 1814 par Joséphine de Beauharnais pour orner le château de la Malmaison, et il faisait à l'origine partie d'un triptyque, hein, donc à la gloire des lettres et des arts, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, pour ce faire, donc, le peintre a fait figurer tous les personnages célèbres du siècle, qu'ils aient ou non été dans ce salon, et de même, il a fait figurer tout un ensemble de peintures, qu'elles aient ou non été possédées par Madame Geoffrin. Alors, qu'est-ce que ça nous révèle, au-delà de l'anecdote ? Ben, effectivement, ce que ça nous révèle, c'est que la nostalgie pour les salons du XVIIIe siècle est quelque chose de constitutif de la culture du XIXe siècle. Et qu'en réalité, les débats sur les salons, et on sait que le terme apparaît d'ailleurs sous la plume de Madame de Staël, ou du moins qu'elle le popularise, ce débat a été très important, évidemment, dans les luttes entre guillemets, nostalgiques de l'Ancien Régime, ou du moins critiques de la Révolution, et, disons, républicains ou partisans du républicanisme. Il me semble donc intéressant de relire la civilité des Lumières à partir de la construction historiographique que nous en a livrée le XIXe siècle. Ça me semble d'autant plus important que réhabiliter aujourd'hui la civilité des Lumières, bien sûr, peut s'inscrire dans un mouvement de critique du républicanisme que j'appellerais fraternaliste. Hein, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, mon second point portera sur les rapports entre civilité et civilisation, ou Europe et caractères nationaux. Alors, l'ouvrage se présente d'abord comme une théorie de la civilité, hein, qui viendrait prendre la relève d'une théorie défaillante de la civilisation. Ce sont les tout premiers mots de l'ouvrage que je me permets de citer. « Notre monde, entre tirets occidental, libéral, démocratique, s'est longtemps pensé sous le concept de civilisation, c'est-à-dire le processus par lequel les sociétés sortent de la sauvagerie ou de la barbarie et se civilisent ou se polissent. Or, comme le dit très justement Philippe Reynaud, l'idée de civilisation est aujourd'hui en déclin. D'où l'intérêt pour la civilité qui prendrait en quelque sorte la relève de la civilisation. Mais ma question, hein, que j'aurais envie de poser à Philippe Reynaud, est la suivante. La réflexion sur la civilité peut-elle se substituer à une réflexion sur la civilisation ? Ne la réintroduit-elle pas de manière subreptice ? De même, à propos de l'Europe, hein, et de ce qu'on pourrait nommer la civilisation européenne. Alors j'ai beaucoup apprécié que sous couvert donc de cette réflexion sur la civilité, sur la politesse, Philippe Reynaud nous donne aussi une passionnante analyse de l'Europe. L'Europe est en quelque sorte l'un des sujets cachés de l'ouvrage, peut-être, hein, comme le dirait les Straussiens, son dessein secret. Sous couvert de réhabilitation de la civilité, de réconciliation des Français avec leur propre histoire, dans ce qu'il y a de plus brillant, quoique un peu corrompu et libertin, Philippe Reynaud nous donne aussi du grain à moudre sur le sens de la civilisation européenne elle-même. Ceci est apparent dans des phrases qui font immédiatement suite à une proposition d'ailleurs fort discutable de Kant sur la Turquie, hein, que je me permets de citer, hein, puisque les Turcs, selon Kant, n'ont jamais été et ne seront jamais au stade acquis pour acquérir un caractère national déterminé. Alors, je laisse de côté cette citation dont on pourrait discuter. Kant n'avait pas pressenti Atatürk, sans doute. Hein. Alors, concernant l'Europe, il me semble que la question se pose, hein, puisque lorsque vous citez Kant, hein, vous rappelez que les frontières de l'Europe sont celles de la liberté et que la vocation de l'Europe, en ce sens, est bien de donner ses lois au monde, non pas au sens d'une domination universelle ou d'une monarchie universelle, mais parce que l'Europe est le continent dans lequel est née l'idée de l'union de la liberté et du droit. Donc ma question, ce sera la suivante. Hein. Ne peut-on pas penser aussi la civilité européenne autrement ? Là, je vais être un petit peu provocatrice, hein, mais vous me permettrez peut-être. Si l'on cite effectivement notamment les travaux d'Étienne Balibar dans « Violence et civilité » ou dans d'autres textes, comme par exemple un article sur l'Europe comme médiation évanouissante, on trouve ici une autre vision de la civilité européenne qui est pensée contre la théorie huntingtonienne du choc des civilisations. Et Étienne Balibar défend l'idée d'un ensemble euro-méditerranéen qui repose précisément, hein, sur le postulat de liens possibles, hein, disons en quelque sorte, hein, et qui exclut de réserver la civilité à l'Europe conçue comme un club chrétien. Voilà. Donc, c'est une énorme question, bien sûr, mais j'avais envie de la poser. Troisième et dernier point, excusez-moi si je suis un tout petit peu longue, sur le sens de la rupture révolutionnaire. J'ai beaucoup apprécié dans l'ouvrage la volonté d'explorer après la Révolution les reprises du thème fétiche des Lumières et toute cette réflexion sur les caractères nationaux, l'Angleterre et la France, mais aussi l'Allemagne et l'Amérique. Les analyses que Philippe Reynaud consacre à Madame de Staël, à Stendhal ou à Tocqueville sont aussi convaincantes que celles qu'il a consacrées plus tôt à Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Hume ou Kant. Hein, on sent en un sens que l'esprit tocquevillien de l'Ancien Régime et la Révolution anime ces pages. Et en ce sens, hein, la survivance des salons jusqu'au monde du Faubourg Saint-Germain me paraît très bien perçue. Ma seule question concerne ici ce qui se produit si l'on relit Rousseau autrement. C'est-à-dire que, disons, si on le relit, hein, avec par exemple le philosophe canadien Charles Taylor, précisément comme un grand penseur de la mutation entre la logique hiérarchique et inégalitaire de l'honneur et la logique de la reconnaissance réciproque de la dignité. C'est ainsi qu'il théorise, que Charles Taylor théorise cette mutation après d'autres. Donc nous serions passés de l'éthique nobiliaire de l'honneur, ancrée dans l'inégalité des conditions, à une ère de reconnaissance réciproque qui pourrait être compatible précisément avec l'égalité des conditions. Si l'on suit cette hypothèse, la logique de l'apparence, de la distinction et de la domination a bien changé de nature. Et Rousseau aurait pressenti cette mutation qui n'interviendra en réalité pleinement qu'après la Révolution. Alors, ma question serait la suivante, finalement. Hein, ne peut-on pas, plus que vous ne le faites peut-être, après Tocqueville, après Furet, disons, rendre toute sa place à cette rupture, hein, à ce changement de paradigme entre deux époques de la civilité, hein, l'une associée à l'honneur et à l'inégalité, l'autre associée davantage à la logique démocratique de la reconnaissance. Et je finirai simplement sur une citation, hein, pour montrer qu'en réalité la logique de la civilité et celle de l'égalité ne sont pas forcément antithétiques, qu'on peut repenser la civilité, à mon sens, hein, dans un cadre égalitaire. C'est une citation issue d'un entretien d'une sociologue avec, disons, une chômeuse de 51 ans, Dominique, hein, je livre telle quelle la citation. « Pour moi, dit-elle, la société égalitaire ou civilisée, c'est celle qui prend soin des plus fragiles. Pour moi, c'est à ça qu'on mesure le degré d'humanité, de civilité. » Voilà, je vous remercie.